Esprit de justice,
Antoine Garapon.
Esprit de justice qui va s'intéresser ce soir à l'expertise médico-légale en compagnie de Romain Juston-Morival, sociologue, et d'Emmanuel Daoud, avocat. La récente affaire Adama Traoré pose des questions de fond, au-delà du contenu du dossier que je ne connais pas et sur lequel je me garderai bien de me prononcer. Mais ce dossier révèle d'abord un certain malaise dans la société française et dans les rapports des citoyens avec leur police. Mais Esprit de justice vous propose ce soir de s'arrêter sur une question en apparence plus technique, mais en réalité absolument déterminante, à savoir la preuve médico-légale. Tout se passe comme si l'arbitre ultime dans ce dossier semblait être non pas les juges, mais des médecins. Comme si c'était la science médicale qui allait trancher in fine. D'où l'importance de notre débat de ce soir qui réunit un sociologue et un avocat, un sociologue Romain Juston-Morival qui est maître de conférence à l'université de Rouen et qui a signé aux éditions de Sciences Po un livre intitulé « Médecin légiste, une enquête sociologique » et un avocat, maître Emmanuel Daoud du cabinet Vigo, qui est avocat pénaliste au barreau de Paris. Bonsoir messieurs.
Bonsoir Antoine Garapon.
Alors, je me tourne d'abord vers vous, Romain Juston-Morival, pour savoir quelles observations principales vous retirez de cette enquête qui a duré 4 ans chez les médecins légistes. Alors, vous vous êtes intéressé à la profession, à une profession qui a pas mal changé ces derniers temps, mais aussi à leur travail dans ce qu'il a de plus concret, de plus matériel, et notamment aux autopsies.
Absolument. 4 ans, c'est la durée de ma thèse de sociologie que j'ai soutenue en 2016 et qui m'a effectivement conduit à suivre l'activité des médecins légistes au plus près de leurs actes, au plus près de ce qu'ils font, avec l'idée de faire quelque chose qui à la fois n'avait jamais été fait en sociologie, mais qui est également assez méconnu des acteurs judiciaires eux-mêmes, rendre compte précisément de la façon dont les expertises sont produites. Alors, ces expertises, c'est les autopsies, vous l'avez dit, mais c'est également un ensemble d'actes cliniques adressés à l'endroit de victimes vivantes. On en reparlera.
Comment vous expliquez cette sorte de d'intimidation éprouvée par les sciences sociales autour de cette fonction, alors qu'elle est extrêmement présente dans les séries télé, hein, je pense. Bon, c'est vraiment un personnage central, expert. Aujourd'hui, c'est le médecin légiste, c'est une figure dans le roman policier, dans les séries, mais les sociologues s'y étaient pas intéressés.
Absolument, ce qui peut paraître un petit peu étonnant. Donc, d'une part, la sociologie en parle peu, la télévision en parle mal, et c'est souvent évidemment des fictions qui font comme si tout se passait très vite, très mécaniquement, alors que l'observation du travail des médecins légistes montre que c'est un travail somme toute assez complexe. Au fond quand même, il faut se souvenir que les sciences sociales en général ont accordé une grande importance à ce sujet, notamment en histoire. Il y a énormément de travaux d'histoire sur les grandes affaires criminelles par exemple, sur des grandes figures de médecins légistes qui ont ouvert un grand nombre d'archives relative à ce sujet, mais personne n'était allé voir, je dirais, l'expertise en action, ce qui, à mon sens, tient d'abord à une difficulté d'accès au terrain, puisqu'on a ici un travail, au fond, qui pose à la fois la question du secret médical et celui du secret d'instruction. Et
est-ce que c'est pas un terrain un peu ingrat aussi, Romain Juston-Morival, un peu ingrat d'assister à des autopsies, d'assister à... qui vous a demandé d'ailleurs une drôle de positionnement pour un sociologue. Il a fallu mettre la blouse blanche, il a fallu jouer au médecin, à l'apprenti médecin, à l'interne.
Voilà, bon, j'ai heureusement très peu joué ce rôle dans le sens où j'ai pas du tout participer aux activités d'expertise, mais effectivement, il a fallu y voir de près, enfiler la charlotte en salle d'autopsie, enfiler la blouse dans les unités médico-judiciaires. De manière générale, la sociologie a assez peu peur de ces tâches ingrates, c'est-à-dire souvent, c'est ce qui est intéressant, c'est d'aller voir ce que, au fond, peu de personnes ont vu, prendre au sérieux un ensemble d'activités dont on peut faire l'hypothèse qu'elles sont extrêmement intéressantes pour poser des grandes questions de sociologie et soulever des grands enjeux en enjeux sociaux. Donc non, moi j'y suis plutôt allé avec l'idée de d'apprendre des choses sur ce travail médico-légal et plus largement sur le fonctionnement quotidien de la justice.
C'est ça. Alors des grandes questions de sociologie, mais des grandes questions aussi pour les praticiens judiciaires, Maître Emmanuel Daoud, hein, dans ce livre.
Beaucoup de questions, et ce qui vraiment m'a passionné, c'est que d'abord j'ai appris beaucoup de choses, et j'étais, pour donner un exemple très concret, à milieu d'imaginer, je le pressentais, quand je dis je le pressentais, un grand nombre d'avocats pouvaient le pressentir comme pénaliste, qu'il y avait un dialogue aussi dense, aussi nourri, aussi fécond, entre les officiers de police judiciaire et les médecins légistes. Et j'étais à milieu d'imaginer... vous nous en donnez des exemples dans votre ouvrage, que vous pouviez avoir un médecin légiste qui, compte tenu de sa formation initiale, le fameux Denis urgentiste, se livrait à l'autopsie d'une façon qui répondait aux critères techniques, mais qui, dans le même temps, voulait faire preuve de beaucoup de pédagogie à l'égard des officiers de police judiciaire, à tel point que, une fois l'autopsie terminée, il pouvait donner des explications complémentaires pour expliquer quel était, par exemple, comment fracasser un crâne. Alors même que l'expertise en tant que telle, dont il avait été saisi, était terminé. Et donc tout ça est un peu surprenant, troublant et choquant.
Oui, c'est ça, exactement, parce que moi j'ai découvert qu'il y a des substituts qui ont une formation assez poussée en médecine légale. Hein, vous rapportez vous pouvez nous dire un mot de ce fameux Marc, alors, hein, tous ces prénoms et tous ces lieux sont bien sûr dissimulés.
Oui, absolument. Tout a été anonymisé, les prénoms comme les lieux dans lesquels je me suis rendu. Pour répondre à votre question sur cette forme de connaissance très intime que certains magistrats du parquet peuvent avoir de la discipline, je prends l'exemple dans le livre d'un certain Stéphane, en l'occurrence, qui lui avait, dans l'institut médico-légal de sa région, participé à un grand nombre d'enseignements, alors plutôt sur des questions de droit, de sciences criminelles, et qui, progressivement, en était venu à assister les médecins légistes, alors ça remonte à plusieurs dizaines d'années maintenant, dans le cadre de leur activité, ce qui fait que voilà, lui c'était vraiment un profil tout à fait singulier, encore une fois, puisque le cas général, et c'est ce qui à mon avis explique l'étonnement de Maître Daoud ici, et qui justifie d'avoir conduit cette thèse au plus près des pratiques, c'est que les acteurs du droit, les acteurs judiciaires, n'ont qu'une très mince idée de la façon dont les expertises sont produites. Leur connaissance s'arrête soit à la lecture de rapports, soit parfois à des échanges téléphoniques, mais moi je ressentais le besoin en tant que chercheur d'ouvrir cette boîte noire de l'expertise, d'aller voir concrètement comment elles étaient fabriquées, et le poids, la nécessité que ces échanges entre officiers de police judiciaire et médecins joue dans le fait, pour un médecin légiste, de pouvoir conclure et signer son rapport.
Oui, c'est très important. Et je comprends, vous avez d'ailleurs glissé, Maître Daoud, c'est même un peu choquant, parce que dans le fond, il y a un dialogue très rapproché, et c'est plus qu'un dialogue, en fait. Il y a une compénétration des catégories même de la pensée des officiers de police judiciaire, du substitut et des médecins légistes. L'avocat n'y est pas.
L'avocat est totalement absent, alors même que le produit de ce travail, et vous le dites fort justement dans votre ouvrage, c'est de produire de la preuve qui va être ensuite examinée par la juridiction de jugement. Et je rappelle, pour vos auditrices et vos auditeurs, qu'il y a un triptyque. On peut être mis en cause sur la base de soupçons. Si on est mis en examen dans le cadre d'une instruction, c'est des indices graves et concordants. Ensuite, ça sera des charges, si elles existent, on sera renvoyé devant la juridiction jugement, et la juridiction jugement, tribunal correctionnel ou cour d'assises, condamnera sur la base de preuves. Et on voit que très en amont, dès le démarrage de l'enquête, par exemple une enquête de flagrance, un corps qu'il faut, dont la mort est suspecte, on va avoir un travail de coproduction de la preuve médico-légale entre le médecin et l'officier de police judiciaire en charge de l'enquête. Et finalement, j'ai été frappé aussi, mais peut-être ai-je mal lu, de voir que ce travail de coproduction, le procureur de la République est là, mais finalement, il est moins là, me semble-t-il, que les officiers de police judiciaire.
Exactement. Et puis il est là rapidement. Alors on va revenir sur tout ça parce qu'il est là dans un flux tendu avec le fameux traitement en temps réel, c'est-à-dire qu'il est au téléphone, on lui donne des informations, mais il est très loin et puis il est mis à distance par le téléphone et en réalité ce qu'on lui dit, eh bien il est tenté de le prendre pour parole évangile. Alors on va reprendre les choses depuis le début. Ouais. Romain Juston Morival, on trouve un cadavre dans l'eau par exemple, il y en a pas mal dans votre. Et puis là, la première décision, c'est est-ce qu'il y a un obstacle ou pas? C'est comme ça que ça se dit. Hein.
Absolument. Voilà. Un obstacle médico-légal. La question est de savoir quoi faire du corps. Peut-on le rendre à la famille si tant est qu'il soit identifié, ou bien constate-t-on sur lui un caractère suspect qui justifierait de l'envoyer à l'Institut médico-légal où il sera examiné à travers un examen externe et éventuellement à travers une autopsie. C'est la première question à laquelle le magistrat de permanence, dont vous avez dit qu'il est à la fois loin, moi j'ajouterais qu'il est pressé, il travaille en temps réel, il a beaucoup de choses à faire, oui, il doit prendre cette décision. C'est la première chose à faire et c'est la question de savoir, cet obstacle médico-légal, faut-il le lever et rendre le corps, ou bien le maintenir et l'expertiser?
C'est tout à fait déterminant pour la suite. Hein, et je pense qu'il y a le cas que vous rapportez, c'est pour les lecteurs d'Agatha Christie, c'est le coroner. Hein, c'est la personne qui arrive pour dire, bon, qu'est-ce qu'on fait de ce corps qu'on vient de découvrir? Ouais. Par exemple, une personne, peut-être SDF, qui a une fracture du crâne, qui est dans l'eau, mais tous ses papiers, elle n'est pas volée. Alors, qu'est-ce qu'on fait?
Eh ben, c'est probablement extrêmement variable en fonction des cas. J'imagine que si la personne a une fracture du crâne qui ne peut pas s'expliquer aisément, on a ici un élément particulièrement suspect qui justifie qu'il soit envoyé à l'IML. Et c'est la raison pour laquelle on en croise dans mon livre, puisque moi j'ai rencontré ces corps à l'Institut médico-légal. Et tout l'enjeu de l'autopsie sera d'essayer d'identifier la cause de la mort. La personne est-elle morte, par exemple, noyée, ou bien est-elle morte avant d'avoir été placée dans l'eau? Auquel cas, on peut imaginer qu'une enquête sera lancée par la suite.
Est-ce que vous avez vu des avocats à ce niveau-là?
Alors, justement, je voulais réagir un petit peu là-dessus, sur cet étonnement de Maître Daoud que j'ai trouvé extrêmement intéressant, sur cette coproduction qui évacue l'avocat. Alors, deux éléments que je voulais apporter à ça. D'abord, effectivement, un des résultats du livre, c'est de montrer que on ne peut pas s'en tenir à une lecture stricte du code pénal et du code de procédure pénale. On n'a pas d'un côté la science qui produit de l'information et le droit qui par la suite vient qualifier des situations. Non, ce qu'on observe en pratique, c'est une coproduction de la vérité judiciaire entre officier de police judiciaire, porte-parole de l'enquête, médecin, porte-parole de la science, et le juge doit, à partir de, aligner ces différents éléments avec ce qu'on trouve dans le code pénal pour raconter une histoire. Où est l'avocat? L'avocat, il n'est pas encore là. Précisément, on est à un stade où rien n'a encore été forcément lancé. On est dans un stade de production de preuves qui seront par la suite discutées dans les phases de l'instruction et du procès. Et moi, dans mon enquête, qui porte sur le rôle principalement des médecins légistes et sur les premières qualifications des faits que des magistrats du parquet déduisent de leur rapport, on ne croise pas d'avocats, on ne les croise pas encore, c'est par la suite qu'ils interviennent.
Et pourtant, c'est vraiment l'affaire Traoré. Là, on est véritablement dans les premières constatations sont faites. Aucun avocat n'est là, Maître Daoud.
Aucun avocat n'est là, mais dans cette affaire, elle est effectivement exceptionnelle, puisque je crois que nous en sommes à...
La septième.
À huit même, je crois. Huit expertises et contre-expertises, avec d'ailleurs, et sans tirer aucune conséquence, évidemment, sur un dossier que je ne connais pas, quelque chose qui est assez frappant pour l'avocat que je suis, c'est que les magistrats instructeurs ordonnent des compléments d'expertise ou des contre-expertises sur la base d'expertises qui peuvent être demandées, mais même aussi sur la base d'expertises privées qui sont apportées par la défense. Et là, on est peut-être dans les prémices de ce qui pourrait
tout
être une évolution.
Tout à fait.
Je ne vais pas aborder peut-être...
On va reporter ce débat qui est central, mais parce que la question que je me pose, c'est est-ce qu'il est possible, Romain Juston Morival, est-ce qu'il est possible de pratiquer une autopsie sans avoir une histoire derrière la tête. Est-ce qu'il est possible d'ouvrir un corps? Est-ce qu'il est possible de ressortir un noyé ou quelqu'un qui est tombé de son arbre, par exemple, en élaguant? Est-ce que immédiatement, spontanément, surtout devant la mort, on se raconte pas quelque chose?
Alors c'est ce que dit le droit. Le droit dit que le médecin légiste, par l'entremise de tout un savoir d'expertise, est capable, face à un corps mort, de conclure. Mais c'est pas ce que montre ma sociologie, c'est pas ça. ce que montre mon enquête.
Bah oui, c'est ça.
Mon enquête, précisément, en allant voir la façon dont les expertises sont produites, montre que le médecin, il est parfois assez démuni face à un corps qu'il doit autopsier, mais c'est également le cas des victimes vivantes lorsqu'il doit évaluer ce qu'on appelle l'ITT, on en reparlera. Il a besoin d'informations judiciaires, il a besoin qu'on lui raconte une histoire. Et ça, j'ai donc pu l'objectiver dans mon enquête en montrant que la raison d'être de la présence des officiers de police judiciaire en salle d'autopsie, c'est parfois d'orienter le travail d'expertise pour aider, au fond, le médecin légiste à savoir quoi regarder, à savoir quoi mesurer. Et c'est en ce sens-là qu'il y a une réelle coproduction, c'est-à-dire puisque en retour, évidemment, le médecin légiste va apporter des éléments nouveaux, techniques, qui vont permettre à l'enquête d'avancer et qui vont permettre au procureur de prendre toutes les décisions qui s'imposent. Donc voilà, une forme de, comme c'est souvent le cas sociologie du droit, une fiction du droit qui ne résiste pas toujours complètement à l'exploration concrète des pratiques et qui, en l'espèce, montre que les informations judiciaires, autrement dit le droit, doit rentrer en salle d'autopsie afin que un résultat scientifique d'expertise puisse être formulé.
Le droit ou le contradictoire ?
Le contradictoire voudrait que nous soyons présents bien en amont.
Bien sûr, ouais.
Le droit aujourd'hui nous interdit d'être aussi présents. Et la connaissance par l'avocat des conclusions d'expertise, de la notification des conclusions d'expertise, c'est par le biais de l'article 167 alinéa 3 du Code de procédure pénale. Et c'est à ce moment-là que nous allons avoir accès à ces conclusions, alors même que ce rapport peut dater de plusieurs mois ou de plusieurs semaines parfois. Et si vous m'autorisez à donner un exemple, là en ce moment j'ai un dossier, je défends une jeune femme qui dit avoir été invitée par son voisin à prendre un verre de vin. Elle prend ce verre de vin, elle perd connaissance et elle se retrouve nue avec des hématomes dans la rue. Elle dit avoir été violée. Il y a une confrontation qui a eu lieu avec son voisin. Et en l'état actuel des choses, nous attendons les expertises toxicologiques pour savoir si elle a ingéré à son insu ce qu'on appelle trivialement la drogue du violeur. Oui. Et donc, je me retrouve avec une jeune femme dans un état de choc absolu, évidemment. La personne présumée innocente, et qui n'a d'ailleurs pas été mise en cause plus au-delà, dit c'était des rapports sexuels consentis. Et elle dit c'est un viol. Et le résultat des courses, c'est que j'ai déposé une plainte avec constitution de partie civile dénonçant les faits de viol, sans avoir encore le résultat de ces expertises toxicologiques. Et pourtant, je me doute bien qu'elles ont lieu, et que je me doute bien aussi que le parquet doit les avoir, mais je ne peux pas attendre, parce que je dois prendre en charge la souffrance de cette justiciable et la vérité qui est la sienne.
Alors, Romain, justement, Rival.
C'est intéressant de voir ici comment les temporalités se heurtent entre les temporalités judiciaires et votre travail d'avocat et les temporalités médico-légales d'expertise ici qui n'arriveraient peut-être pas assez vite, quoi.
C'est ça. Et puis, le fait que on est en train de construire, de jeter les fondements d'une histoire, d'un récit.
Oui.
Et dès le départ, dès qu'on commence, est-ce que vous cherchez donc s'il n'y a pas un hématome sous-dural, cherchez s'il n'y a pas dans le lobe inférieur du poumon trace de ceci, trace de cela. Oui. C'est là où se déterminent déjà les choses, c'est là où un récit commence, les fondations d'un récit sont en train d'être posées, et c'est là où l'avocat n'a pas la possibilité d'orienter ou de contre-orienter, pourrait-on dire, le récit.
Absolument. Moi, vous demandiez tout à l'heure l'heure du droit ou du contradictoire, moi, en tant que sociologue, j'ai eu une approche extrêmement ouverte de ce qu'on peut appeler le droit, et j'ai retenu comme définition l'idée que ce qui compte en droit, c'est de raconter une histoire qui tienne, qui sera la vérité judiciaire judiciaire qu'on raconte au procès, qu'on discute au procès et que on raconte à travers lui, pour montrer que le récit commence bien avant, dès la salle d'autopsie, où il s'agit d'ores et déjà de commencer à raconter cette histoire-là.
I woke up to the morning sky first. Baby blue, just like we rehearsed. When I get up off this ground, shake leaves back down to the brown, 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 till I'm clean. Then I walk where I'll be shaded by the trees, by a meadow of green, for about a mile. I'm headed to town, 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 in style, with all my favorite colors. Yes, ma'am, I got all my favorite colors, ma'am. My sisters and my brothers, see them like no other.
France Culture,
Esprit de Justice,
Antoine Garapon.
The baby blues birds fly, fly, see them fly.
Esprit de Justice qui est toujours dans des salles d'autopsie pour essayer de comprendre comment se construit un récit judiciaire avec Romain Juston-Morival, sociologue, et Emmanuel Daoud, avocat. Emmanuel Daoud qui a choisi de nous faire entendre Colors des Black Pumas.
Oui, compte tenu du sujet, j'avais envie d'entendre une chanson optimiste, pleine d'entrain. Et c'est le cas, et tout l'album, je recommande tout l'album, il faut l'écouter, les Black Pumas, c'est vraiment une découverte, voilà.
Très bien, mais alors, qu'est-ce que l'avocat que vous êtes entend derrière cette idée qu'un récit se construit, mais c'est pas ce que prévoit le code de procédure pénale?
Le code de procédure pénale, ce sont les articles 156 et 158, dit expressément que les experts sont là pour trancher des questions d'ordre technique, sous le contrôle du juge, des questions d'ordre technique. Et donc, l'apport de votre ouvrage, enfin, je ne suis pas là pour décerner des lauriers, mais l'apport de votre ouvrage, c'est que l'on voit que pour la construction de cet avis technique, le narratif, ce que pensent les enquêteurs, va avoir un impact considérable sur la production de cet avis technique. Et d'ailleurs, ce qui m'a frappé aussi, c'est que dans le cas de la rédaction de leur rapport, les hésitations que pouvaient avoir les médecins experts qu'ils avaient exprimées au cours des opérations d'expertise, ils vont les gommer pour donner un travail brut, ciselé, qui pourra être exploité par les juges. Et les hypothèses que l'on a pu émettre, elles vont pas être... Elles ne vont pas être consignées par écrit, alors même que des dossiers peuvent démontrer que certaines des hypothèses qui avaient été éliminées, et on comprend maintenant comment elles peuvent être éliminées, auraient pu c'est être ça. Mentionnées et donner lieu peut-être à des contre-expertises ou des compléments d'expertise.
C'est pour ça dire qu'on peut se poser la question de savoir si on accumule les expertises sans laisser l'avocat participer à cette co-construction, jouer son rôle d'empêcheur de tourner en rond, de poser des questions d'indiscrétion, on peut multiplier les expertises, on n'a peut-être pas résoudre le problème.
On ne va pas résoudre le problème, et sans polémiquer avec nos amis magistrats et magistrates qui ont la charge d'instruire et de juger, lorsque nous arrivons, nous avocats, au moment où on notifie les conclusions d'expertise, surtout lorsque nous avons un rapport d'expertise d'une sommité médicale,
oui.
parce que le prestige, le renom, ça joue aussi, et que l'on vient, par exemple, après un an d'instruction, parce que c'est à ce moment-là qu'on a notifié les conclusions d'expertise, et qu'on va demander un complément d'expertise ou une contre-expertise, parfois nous avons le sentiment, je ne vais pas généraliser, je serais un crétin de généraliser, que l'on nous fait le reproche d'une demande dilatoire ou déplacée à contre-temps, qui aurait pour objet de ralentir le cours de l'instruction. Et notamment lorsqu'on est en défense, il faut aussi penser aux parties civiles et ne pas ralentir le cours de la justice. Donc parfois ça peut donner lieu à des conflits de légitimité. À nous de prendre toute notre place.
On viendra savoir si vous êtes véritablement à armes égales. Alors, Romain Juston, mon rival, ça c'est encore plus manifeste dans votre livre sur l'ITT. Vous expliquez à nos auditeurs ce que c'est que l'ITT.
Oui, bien sûr. L'ITT, c'est l'incapacité totale de travail. Voilà ce que le sigle signifie. En réalité, il n'est ni question d'incapacité, ni de totalité. Ça n'a rien à voir avec le travail.
Oui, mais c'est très important parce que selon le nombre de jours, on va soit au tribunal de police,
exactement,
soit au tribunal correctionnel.
C'est l'instrument central des certificats médico-légaux qui concernent des victimes vivantes de violences physiques. L'ITT, donc je le disais, ça mesure pas du tout une incapacité, ça mesure une gêne fonctionnelle pour réaliser les actes de la vie quotidienne. Elle n'est pas forcément totale, cette gêne, elle peut être donc partielle, elle n'a rien à voir avec le travail, c'est pas du tout un arrêt de travail. C'est donc évaluer la gêne fonctionnelle pour réaliser les actes du quotidien, et c'est ce qui va permettre au juge, ça se compte en nombre de jours, d'évaluer la gravité des faits, la violence d'une agression. Et effectivement, dans le cas des violences volontaires, le critère est fixé à 8 jours et ce ne sera pas du tout la même procédure judiciaire qui sera enclenchée. Dans un cas, sous les 8 jours, on va réunir le tribunal de police et régler ça sous un régime contraventionnel, alors que cela devient un délit.
Et vous constatez qu'il n'y a pas beaucoup d'unités, et vous regardez comment concrètement, au jour le jour, les médecins légistes établissent ces ITT.
Absolument. Dans mon enquête, j'ai au fond fait la même chose chez les vivants que chez les morts. J'ai regardé le travail concret des médecins ici en consultation, lorsqu'ils rencontrent les victimes, échangent avec eux, les examinent et donc décident de ce nombre de jours d'ITT. Et j'ai été frappé, mais ça c'est quelque chose qui est connu dans le monde médical et judiciaire, par l'extrême variabilité de ces ITT, oui, selon les médecins, selon les services, selon les situations.
Alors variabilité, et puis quand même parfois on lit des choses un peu quoi, moi qui me laisse un peu perplexe. Je voudrais que vous nous racontiez l'histoire auquel vous assistez d'un dénommé Jamel, hein, c'est comme ça que vous l'appelez, Jamel, qui est handicapé, qui a une altercation avec un surveillant, avec un agent de sécurité d'une agence de voyage avec lequel il semble-t-il il est en conflit, et puis ça se passe mal. Comment réagissent les médecins légistes?
Alors, comme d'habitude, ce ne sont pas les médecins légistes qui réagissent, c'est la médecin sur laquelle il tombe, entre guillemets, qui récupère son dossier sur la pile et qui le rencontre, et qui n'est pas du tout disposée à écouter Jamel, qui lui met en avant le fait qu'il est en situation de handicap, attestation à l'appui, et qui considère que on a frappé un handicapé et que cela devrait donc rentrer en ligne de compte dans la réparation judiciaire qu'il demande. Le médecin, face à ça, est très réticente à l'idée de regarder les choses sous cet angle et constate, en regardant les informations judiciaires, les PV qui figurent dans le certificat,
qui n'ont rien à voir avec le corps de Jamel.
Qui en l'occurrence rien à voir avec le corps de Jamel, qu'il était en altercation depuis bien longtemps avec l'agent de sécurité, la compagnie que représente l'agent de sécurité. Et du coup, elle n'est pas du tout disposée à l'entendre. Et puis la situation du coup va se crisper de plus en plus fortement entre, en gros, qu'est-ce qu'on fait de son handicap? Est-ce qu'il faut, c'est ce que demande Jamel, qu'on l'intègre à l'évaluation de la gravité des faits, ou est-ce qu'il faut, selon elle, et qui met en doute, en l'espèce, c'était très violent à observer moi, qui met en doute en lui reprochant d'être un menteur et en jouant ensuite, je dirais, d'une forme de racisme très fort, puisque la scène se conclut.
C'est ça.
Alors je rappelle, gravissime,
ouais. Bah oui, c'est ça. Je rappelle quand même les termes que vous prenez, vous, en tant que sociologue. Hein, elle dit à un moment, oui, c'est l'handicapé typique, j'en ai un parent, le tire au flanc qui vise sur son handicap. Je suis plus sévère également avec une victime de viol si elle rentre de boîte de nuit que si elle rentre du travail. Et puis elle conclut en disant, il était tellement embêtant, et en plus, il s'appelait Jamel.
Voilà. la situation typique qui me fait dire que souvent c'est pas tellement les autopsies qui ont été difficiles à observer, mais c'est parfois les échanges qu'on observait en consultation. Ce cas évidemment est tout à fait, si je veux dire, extraordinaire,
oui,
ne correspond
fait,
pas du tout à la profession de médecin légiste qui, au contraire, est formée pour pouvoir, je dirais, ne pas manifester d'attitude raciste ou discriminatoire envers les victimes, mais qui en même temps accueille en son sein une telle diversité de parcours, on en reparlera certainement.
Ce qui est très significatif, c'est pas du tout cette réaction qui est extraordinaire, mais ce qui est très significatif, c'est que dans le fond, elle lit les PV de police, et puis en fonction de ça, elle se fait une idée, et puis elle n'en démord pas, Maître Daoud.
Si vous me permettez, je fais un procès d'intention à cette médecin légiste que je ne connais pas et qui ne peut pas être identifié, mais c'est la différence entre un bon médecin légiste ou un mauvais médecin légiste, un bon magistrat ou un mauvais magistrat, un bon avocat ou un mauvais avocat, quelqu'un qui va au-delà des apparences, qui travaille, qui creuse. Ce qui est, puisque vous m'interrogez aussi sur ce que peut faire l'avocat, il est évident que l'avocat de Jamel, s'il en a eu un, pourra ensuite, soit s'il y a eu une information judiciaire, demander un complément d'expertise, ou plus vraisemblablement demander une contre-expertise compte tenu du comportement de cette médecin légiste, parce qu'on ne va pas lui demander de revenir sur ce qu'elle a conclu, ou dans le cadre, imaginons que l'on soit sur une procédure qui va sur citation directe, c'est-à-dire enquête préliminaire, le procureur de la République saisit directement le tribunal correctionnel, il est clair que si on doit intégrer l'handicap, il faut bien qu'il y ait un complément d'expertise qui puisse...
Ça montre que finalement il y a tout ce travail que vous rapportez d'ailleurs en disant il faut passer du corps d'écrit au rapport écrit. C'est-à-dire que ce que fait le médecin légiste, c'est qu'il faut mesurer. Finalement, c'est combien d'IDT.
Ce processus de traduction,
capital.
Oui, et impossible, j'allais dire. C'est, en tout cas, il n'est pas du tout. On peut pas le protocoliser de manière tout à fait évidente, ce qui explique ces grande hétérogénéité des avis médico-légaux qui sont rendus et qui constituent, c'est un peu, je pense, un des résultats également de cette enquête en UMJ, pas un problème que moi, sociologue, j'ai découvert et que j'entends résoudre, mais un problème qui est discuté quotidiennement en médecine légale.
Et qui est discuté quotidiennement parce que vous disiez, Maître Emmanuel Daoud, vous disiez, moi je dois gérer la souffrance des gens. Et de plus en plus, c'est une des difficultés que rencontre la médecine légale, c'est que, bon, les gens ont pris des coups, ils ont du mal à s'habiller le matin, mais il y a cette répercussion psychologique capitale.
Absolument, qui vient en fait en rajouter sur cette extrême variabilité des avis, puisqu'on a observé depuis une dizaine d'années maintenant en France, donc en réalité au moment où je réalisais mon enquête, une montée en puissance de la volonté de mesurer aussi le retentissement psychologique des faits de violence. Or, on peut imaginer que s'il est compliqué de déterminer un nombre de jours d'ITT en s'en tenant à une évaluation somatique, si on désire y intégrer une dimension supplémentaire psychique à laquelle les médecins ne sont pas formés, cette hétérogénéité des avis va aller croissante. Et c'est un des résultats de l'enquête de montrer que cette attente sociale, beaucoup plus large, d'intégrer la souffrance psychique...
Et tout à fait respectable plus, d'ailleurs.
Tout à fait, mais et vient... complexifier encore davantage la détermination de ce nombre de jours d'ITT. Je raconte beaucoup d'histoires dans le livre où on voit que la manière dont on intègre ou non la dimension psychologique fait souvent, par la force des choses, passer des ITT au-delà de ce critère des 8 jours qui est décisif.
Emmanuel Daoud.
Oui, et vous parliez de souffrance. Il y a souffrance évidemment des parties civiles ou de celles et de ceux qui se disent victimes, mais il y a aussi la souffrance de celui qui part en détention provisoire sur la base d'une expertise médico-légale qui va se révéler fausse dans un second temps. J'ai en mémoire un dossier où on trouve le corps d'un homme étranglé et dans le sillon, au niveau du cou, on trouve des traces de sperme. Ces traces de sperme vont être envoyées auprès d'un laboratoire réputé et on va identifier l'ADN de celui qui est mis en cause, qui, confronté à cette preuve, après de longues heures de garde à vue, et à une époque où les avocats n'étaient pas là
en garde à vue,
va dire « oui, j'étais bien là ». je suis bien venu cette nuit-là au domicile de la personne décédée, alors que jusque-là, il l'avait nié. Il est mis en examen, il est incarcéré. Son avocat, qui était l'un de mes associés, va demander une contre-expertise et un complément d'expertise dont on aura les résultats 4 mois après. Résultat des courses. Il y a eu une erreur. C'était pas un mélange d'ADN. On n'avait pas trouvé son ADN. Il y avait bien une empreinte de sperme, mais qu'on ne pouvait pas lui attribuer à lui. Et on n'a pas pu dater cette empreinte de sperme. Il a été libéré immédiatement, mais
après quatre mois de détention,
et si c'était flingué.
Parce que Romain Juston Morival, la difficulté des médecins légistes, c'est que il faut faire parler les morts, si je puis m'exprimer ainsi. Ouais, ouais. C'est-à-dire, il faut faire parler des choses qui ne racontent rien, de savoir s'il y a de l'ADN sur une cigarette, alors qu'une personne, une femme se plaint de viol, ça dit rien du consentement. Ça dit que la personne était là. Point barre.
Il faut faire parler des corps qui ne parlent pas tout seuls, soit parce qu'ils sont décédés, soit parce que le rôle du médecin n'est pas de retranscrire les doléances et les plaintes des victimes.
Mais la tentation est forte en même temps.
La tentation est forte et c'est la raison pour laquelle, quelle que soit l'expertise à laquelle j'ai assisté, il y a toujours de la parole qui vient se mêler aux résultats techniques, qui vient se mêler aux résultats plutôt juridiques liés à la loi. Et c'est au fond cet assemblage entre droit et science qui a été au cœur de cette enquête et qui est au cœur de cette activité médico-légale.
Parce que Emmanuel Daoud, mêler le droit et la réalité et le réel et la souffrance et la psyché des gens, c'est vraiment le rôle de l'avocat.
C'est le rôle de l'avocat parce que nous sommes là aussi pour, évidemment, à la place qui est la nôtre, restituer la complexité des faits, de la personnalité, du dossier. Et c'est vrai que dans une justice qui va de plus en plus vite, le traitement en temps réel, avec des moyens qui sont limités, on a plutôt tendance, et c'est humain, à aller vers les solutions, ou en tout cas les vérités qui semblent les plus évidentes. Et l'avocat ou l'avocate doit être là pour restituer cette complexité. Je ne sais plus qui a dit cela, mais juger, c'est une charge. Savoir, c'est une prétention, puisque c'est soumis au contradictoire. Et défendre, c'est un devoir. À nous de défendre et de restituer la complexité.
Et alors, Romain Juston Morival, vous venez d'écrire un article qui n'est pas encore publié, mais dont le titre est extrêmement évocateur. Vous dites « Autonomie des juges ou automatisme des jugements ? La qualification judiciaire à l'épreuve des expertises médico-légales. »
C'est effectivement ce dont on vient de parler ici. C'est un des résultats, je dirais, transversal de la thèse. Alors, il ne faut pas oublier dans ces assemblage entre des discours, des pratiques, la science, le droit et la parole, le rôle de la science. On a ici la parole de médecins dont la légitimité vient d'un, je dirais, de compétences médicales très pointues qui expliquent que lorsqu'ils parlent, lorsqu'ils écrivent un rapport, on observe du côté des juges, des acteurs judiciaires en général, une tendance à les croire, une tendance
à parce qu'il y a une véritable science. Si on prend l'exemple de la toxicologie, ça a incroyablement évolué.
La médecine aussi.
Bien sûr. Donc il y a du vrai savoir. Il faudrait pas jeter le bébé avec l'eau du bain et dire tout ça c'est des charlatans, c'est des bonnets pointus, c'est des bonnets carrés de Molière. Non, pas du tout. Il y a de la science. Mais est-ce que justement une des difficultés de la médecine légale, c'est d'avoir à combiner des secteurs très différents, l'anatomopathologie, la toxicologie, l'anthropométrie, toutes ces sciences ayant évolué ces dernières années.
Absolument, et je crois que l'enjeu essentiel là-dedans, c'est qu'on observe qu'à mesure que la science s'affine, devient robuste, opère vraiment de manière centrale dans la production des preuves, le travail des magistrats du parquet, pour celui que j'ai étudié, lui, se contraint d'abord, puisque, vous l'avez dit, les magistrats du parquet travaillent dans une permanence téléphonique en temps réel. Ils prennent leurs décisions en temps réel, des Alors, affaires.
Concrètement, en temps réel, c'est-à-dire qu'ils ont les écouteurs sur les oreilles.
Le combiné.
Ils ont leur bible d'incrimination, c'est qu'ils sont quand même parfois très complexes. Ils doivent gérer des tas de choses en même temps, avec une pression. Et ils prennent des décisions sur le champ. Qu'il y a de plus terrible, là, si c'est l'ancien magistrat qui parle, il n'y a pas plus terrible que prendre une décision au téléphone.
Exactement, il n'y a pas plus énigmatique aussi. Comment peut-on dissoudre aussi rapidement une hésitation qu'on peut avoir sur un cas en prenant une décision plutôt qu'un autre? Sur quoi est-ce qu'on s'appuie concrètement et quel rôle jouent les énoncés médico-légaux dans cette décision? Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire du côté de la justice la même chose que ce que j'avais conduit du côté médical. Je me suis rendu dans ces permanences téléphoniques, services de traitement en temps réel, et j'ai observé ces magistrats au travail. Je les ai vus téléphoner, échanger à la fois avec les policiers, les médecins, et assembler à leur tour ces données médicales, ces données d'enquête pour prendre leurs décisions en temps réel.
Parce que, en fait, il y a une attente de tous. Il y a une attente de la société, il y a une attente des services de police, il y a une attente des avocats aussi, peut-être, d'ailleurs, suivant le côté de la barre où ils se trouvent. Il y a une attente de scientificité, c'est-à-dire de partir de quelque chose de solide. On parlait des séries télévisées, mais ça monte pas, c'est pas des séries. Tout de Sherlock Holmes, C'est l'idée de la preuve scientifique. C'est véritablement, Sherlock Holmes va trouver. Et donc, on a envie d'avoir quelque chose de solide dans un dossier, Ben Daoud.
On a envie d'avoir quelque chose de solide, Antoine Garapon, mais il est clair aussi que, en tout cas, je parle pour moi, je ne vais pas parler pour les autres, ce qu'on veut, ce sont des preuves qui sont fiables et pas contestables, qu'elles émanent d'experts scientifiques ou pas. Et la grande difficulté, je trouve, sur l'évolution de ces dernières années, c'est que compte tenu des progrès, on va dire, de la science, de la médecine, on a de plus en plus le sentiment que les magistrats, parfois, délèguent une partie de leur pouvoir d'appréciation à ces experts qui deviennent de plus en plus puissants quant au résultat final. Et, pardonnez-moi, il y a une jurisprudence de la Cour européenne qui dit très clairement... Le magistrat ne doit pas déléguer, il ne doit pas transférer ses pouvoirs, il doit conserver son pouvoir d'appréciation. Et c'est vrai que on n'est pas hors sol. Quand on est avocat ou avocate ou magistrat ou sociologue, on doit bien évidemment s'inscrire dans ce qui est notre terreau commun. C'est l'opinion publique, c'est tout ce que nous recevons, et on est abreuvé de cela. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a, de mon point de vue, une dérive.
Ils ont voulu me corrompre, m'acheter. J'ai refusé. Ce fut une révolte légitime des militaires contre les derniers vestiges du colonialisme. Vestiges du colonialisme.
Un pour le sang, deux pour l'acier.
Et la France-Afrique a autopsié.
Heure du décès,
le plus tôt serait le mieux.
Cause du décès,
ça nous importe peu.
Un pour le sang, deux pour l'acier.
Ils ont voulu me corrompre, m'acheter.
Heure du décès,
le plus tôt serait le mieux.
Cause du décès,
ça nous importe peu.
Que dit l'autopsie avant d'éparpiller les cendres? Au monde si nombreux, qu'il y a de comptes à rendre. Scalpel, bistouri, le légiste est formel. Ce système crapuleux a du plomb dans l'aile. Qui a une dette envers qui? Qui place des tortionnaires à la tête de nos pays? Qui s'enrichit de la crasse de cette vieille dépouille que l'on a incisée du cou jusqu'aux couilles? Quelques sales races de barbouzes qui doivent se sentir bien seules, sans risquer de se prendre des coups de calibre 12 dans la gueule. Plus de rampe pétrolière, plus de médecins sans frontières. L'aventure s'arrête là. Chirac, Foucault, Pasqua, Mitterrand. Et la liste est longue comme le temps qu'on réalise.
Que dit l'autopsie? Tous les empires tombent. Que dit l'Elysée? Attendez une seconde. La DGSE est sur les dents. Elle revoit le plan des prochaines livraisons d'armement. Depuis qu'une poignée de régimes récalcitrants marche armée sur la tempe des vieux pères blancs. Toutes les races possibles de mercenaires convergent vers Kinshasa, Conakry, Abidjan. Les suceurs de sang jurent fidélité à Total Accord, Bouygues, Bolloré. Le fond de l'air est luxembourgeois. Le cachet du Quai d'Orsay faisant foi.
Un pour le sang, deux pour l'acier.
Et la France-Afrique a autopsié.
Heure du décès,
le plus tôt serait le mieux.
Cause du décès,
ça nous importe peu.
Un pour le sang, deux pour l'acier.
France Culture,
Esprit de Justice,
Antoine Garapon.
Esprit de Justice, que ce soir est dans une ambiance extrêmement fraîche, comme vous l'avez entendu, et avec nos invités, un sociologue Romain Juston Morival et un avocat Maître Emmanuel Daoud. Et notre sociologue a choisi de nous faire entendre cette chanson, ce rap. Que dit l'autopsie?
Que dit l'autopsie? Une question que le juge pose évidemment quotidiennement.
Là, il se la pose d'une manière un peu particulière.
De manière métaphorique, mais qui m'a également fait constater que dans le rap français, qui est une musique que j'écoute beaucoup, la référence à la médecine légale à travers l'autopsie est omniprésente. On la retrouve vraiment dans un ensemble de morceaux très, très importants. Et donc là, j'ai choisi de faire écouter celui de ce groupe La Rumeur, qui est un groupe historique de l'histoire du rap français et qui ressort un album cette année après plusieurs années de pause, et qui par ailleurs est également très, c'est ce qui me semblait intéressant également avec ce groupe, impliqué dans le débat au fond sur les violences policières, puisque la mort de George Floyd par exemple a donné une tribune de la part du groupe cet été dans le monde.
Et c'est Adama Traoré, on voit bien que la centralité de cette question. Vous écoutez aussi du rap, Maître Emmanuel Daoud?
J'en écoute beaucoup sur une radio concurrente, Skyrock par exemple, ou Nova. Et puis j'ai quatre filles qui sont majeures et vaccinées, qui écoutent beaucoup du rap. Donc ça, on partage cela.
Il faut écouter le move.
Alors, ce que je trouve très intéressant dans ce débat, et il faudrait consacrer notre dernière partie justement à imaginer à réfléchir, c'est que pour moi, je crois que le fait que l'affaire Adama Traoré se pose à partir des questions entre communautés, de la diversification, de la diversité grandissante de la société française, montre que le rapport savoir-pouvoir sur lequel est basé notre code de procédure pénale et notre justice, c'est-à-dire qu'il s'agisse du savoir médical ou du savoir de la police ou du savoir juridique, il y a cette continuité qui aujourd'hui semble problématique, voire toxique, et qui n'offre pas assez de place à l'avocat. Et donc, dans le fond, derrière ces questions médico-légales, il y a quelque chose de très profond qui se joue, pour moi, Emmanuel Daoud, c'est pas uniquement au-delà de la place de l'avocat dans le procès, c'est quelle configuration du procès pour quelle société. Et c'est cela que, dans le procès des sociétés beaucoup plus libérales, comme par hasard, le rôle de l'avocat aussi est beaucoup plus grand pour co-construire les récits des faits, parce qu'à travers cette co-construction des faits se joue la co-construction du récit de la société dans laquelle nous vivons. Emmanuel Daoud.
Sans revenir sur notre histoire judiciaire, nous avons un système inquisitorial où, dans un premier temps, les preuves étaient obtenues sous la forme de l'aveu et de la question et donc de la torture.
C'est ça.
Évidemment, nous avons progressé, fort heureusement.
Merci. Bonne nouvelle.
Mais ce système inquisitorial a besoin de ses preuves absolues. L'aveu reste la reine des preuves. Et on s'aperçoit, notamment dans les affaires criminelles, que lorsque l'on peut confronter le mis en cause à des preuves scientifiques, je ne vais pas citer des affaires qui ont défrayé la chronique sur des tueurs en série ou à qui niait tout, puis on a retrouvé l'ADN de la victime sur une scie qu'on avait retrouvée dans son véhicule. Il a changé d'avis. Donc on a toujours cette envie d'apporter cette preuve ultime. Et ces éléments de preuve scientifiques permettent d'y arriver. J'ajoute, si vous me permettez, que la grande difficulté dans notre système judiciaire, c'est, vous l'avez déjà souligné Antoine Garapon, c'est que l'avocat qui est là pour apporter la contradiction n'est pas associé suffisamment en amont pour participer à l'élaboration de cette preuve, de cette vérité, la vérité judiciaire parfois.
Et de ce récit des faits.
Et de ce récit des faits. Et donc, nous sommes à l'écart avec un juge aussi qui, et je le comprends parfaitement pour en avoir parlé avec des magistrats et des magistrates, qui se disent surtout évitons l'erreur judiciaire, évitons l'arbitraire, évitons de nous tromper.
Bien sûr.
Et si on peut se retrancher derrière l'avis d'experts, de médecins experts, c'est quand même plus confortable. Je dis pas que c'est verbalisé comme cela aussi systématiquement, ce serait idiot de ma part. Mais il y a quand même aussi cette peur de se tromper. Et si des expertises sont là pour nous conforter, c'est quand même mieux.
Absolument. Ce qui me semble très important à rappeler, c'est qu'on est en France, dans un système d'expertise du juge. Le juge choisit ses experts, le juge commande des expertises, il choisit ses experts en retenant comme critère celui de l'indépendance vis-à-vis des parties, et de cela doit du coup émerger une preuve robuste, qui est très différent d'un d'autres types de systèmes, comme aux États-Unis par exemple, où l'expert est l'expert des parties.
Bien sûr.
Ce sont les parties, et de ce contradictoire, de ce débat, doit émerger la vérité judiciaire.
Et toujours ce lien au pouvoir, parce que les experts médico-légaux, en fait, dans les petits tribunaux, il y en a très peu, et on travaille tout le temps avec eux, ils sont tout le temps au téléphone avec les juges, ils se connaissent.
Les experts judiciaires tout court.
Les experts judiciaires tout court, bien sûr. Et qui sont souvent des gens d'une très grande probité, mais c'est cette... Il n'y a pas de place pour un regard tiers dans cette...
C'est comme ça que l'expertise judiciaire, effectivement, c'est... construite en France avec cette idée d'expertise du juge, mais dont on voit qu'elle a peut-être, en tout cas, tendance à évoluer, cette idée, puisque vous citiez tout à l'heure l'affaire Adama Traoré et c'est près d'une dizaine d'expertises qui ont maintenant été réalisées, ou dans des cas particulièrement complexes, l'expert du juge qui est médecin légiste et donc particulièrement apte, formé, socialisé à travailler avec la justice, peut parfois... être en difficulté pour résoudre des cas particulièrement complexes.
Et qui est tenté de se conformer implicitement et peut-être même inconsciemment aux attentes de ses interlocuteurs.
Bien sûr. En tout cas, c'est certain, c'est qu'effectivement, son rôle de bon expert, c'est d'intégrer les attentes du juge, mais aussi, du coup, de ne pas déborder de son rôle. De, quand il ne sait pas, de dire qu'il ne sait pas.
Et les avocats et avocates participent également dans cette façon d'appréhender les experts. Combien de fois les juges vont nous dire « Maître, c'est quand même Monsieur X ou Madame Y, donc c'est une expertise de qualité oui. ». Et combien de fois nous allons dire « Ah, c'est lui qui est désigné !» ou « C'est elle qui a été désignée, le travail va être de qualité !» ou même si on se projette vers la phase de jugement, on va se dire « Bah, en tout cas, les choses vont pouvoir être dites de façon claire, pédagogique, parce qu'il sait s'exprimer, il sera concis, elle sera concise, et son propos sera compris des jurés. On se projette déjà à 2, 3 ou 4 ans en se disant, on a de la chance, on a du bol, on a un bon expert.
C'est très important ce que vous venez de dire, Emmanuel Daoud, parce que moi je pense à un grand livre de la sociologie judiciaire, je pense à la preuve judiciaire de Lévi-Brull en 1922. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, une bonne preuve, c'est une preuve qui établit la vérité et qui prépare l'acceptation sociale de ce qui sera tenu pour vrai. Mmh. Romain, justement.
Oui, Lévi-Brull a également une... conception de la preuve assez évolutionniste, où l'histoire qu'il fait, qu'il brosse, nous permet d'aboutir aujourd'hui à ce qu'il considère être la preuve scientifique, la reine des preuves, c'est plus tant l'aveu que l'ADN aujourd'hui. Démarche, disons, avec laquelle moi, sociologue, je me pose plutôt en... comment dirais-je, de manière un peu contrastée vis-à-vis de ça, puisque moi je ne me positionne pas du tout dans cette idée que la preuve scientifique est la reine des preuves. Au contraire, moi j'ai une approche qu'on qualifie souvent en sociologie de pluraliste, où toute mon enquête a consisté précisément à démêler les différents registres qui participent à la construction des preuves. Toute preuve étant en partie scientifique et en partie autre chose.
Bien sûr. Emmanuel Daoud, dans un système idéal, parce qu'on voit bien que notre système doit évoluer. Doit évoluer parce que, mais pour des raisons très profondes. Pour donner, dès le départ, ab initio, comme disait juriste, place à divers manières d'écrire l'histoire, diverses sensibilités. On le voit d'ailleurs avec l'affaire MeToo, c'est-à-dire avec une revendication et qui est tout à fait respectable en disant, mais notre sensibilité à nous autres femmes n'est pas prise en compte dans la justice parce que, en raison de... Bon, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Quelles sont votre idéal et la direction dans laquelle devrait aller la justice, Emmanuel Daoud ?
Antoine Garapon, c'est une question difficile qui nécessite une réponse courte, mais je vais me lancer. La première chose, c'est que on devrait pouvoir, de mon point de vue, enregistrer les autopsies et les visionner. C'est-à-dire que je demande pas que les avocats soient dans les salles d'autopsie, mais en tout cas qu'on puisse, puisqu'il y a un travail de coproduction de la preuve, que l'on sache quels sont les éléments qui ont été écartés et pourquoi, quels sont les éléments qui ont été amenés par les enquêteurs dans le narratif, pour reprendre la terminologie qui est la vôtre dans votre livre, et l'expertise. Certains préconisent une expertise à l'aveugle, oui, en disant les médecins experts ne doivent pas avoir accès au dossier, ça oui, peut impacter. Oui, oui. Moi, je suis pas d'accord là-dessus. Je pense que dès lors qu'on pourrait avoir un contrôle en amont de savoir ce qui s'est dit, un peu d'ailleurs pour les enfants, pour les gardes à vue des mineurs, tout est à fait,
et ça produit beaucoup d'effets.
Et ça produit beaucoup d'effets positifs. De la même façon que je pense qu'on devrait laisser plus de place à l'expertise privée, sans considérer que les experts privés sont des mercenaires. Avec, et il faut le dire aussi, la justice de qualité, ça coûte cher.
Oui.
Comment fait-on pour financer ces expertises privées? Si on fait des expertises privées, ça veut dire des justiciables à 4, 5, 10 ou 15 vitesses.
Et ça demande du temps. Alors, votre solution, c'est vous qui aurez le mot de la fin, le sociologue, ce qui est paradoxal pour la...
Moi, je suis comme les bons experts. Hein. Quand je sais pas, je le dis. Autrement dit, ce que je voudrais pointer, c'est que c'est pas mon rôle de sociologue, quand bien même j'aurais mené une enquête de 4 ans sur le sujet, de dire ce qui serait mieux de faire. Simplement, je voudrais noter que la proposition faite par mon interlocuteur aujourd'hui, je la trouve particulièrement intéressante en cela qu'elle prend vraiment au sérieux les tensions de cette activité médico-légale qui... Et à la fois un discours qui a une très grande portée, une très grande efficacité pour dire la justice, mais qui a en même temps un discours qui a besoin d'informations judiciaires, donc qui ne fonctionne pas tout seul. C'est pour ça, moi je vous rejoindrai aussi, une expertise à l'aveugle, mon enquête montre un petit peu, par l'absurde, par contraposé, en tout cas, que c'est certainement très peu efficace, qu'ils auraient du mal à conclure. Donc inventer, si des protocoles s'inventent pour essayer de résoudre ces tensions, en tout cas, moi, comme sociologue, je serais très intéressé par les observer.
La parole est à la Défense. Un mot, Emmanuel Daoud.
Il faut lire votre livre.
Très bien, voilà une parfaite conclusion. Merci, Emmanuel
Merci
Daoud.
Beaucoup.
Merci, Romain Juston.
Merci, Antoine Garbon.
Esprit de justice, Emmanuel Daoud, Romain Juston-Morival, Julien Douminc, Catherine Denet, Sandrine Chaperon, Anne-Pascale Desvignes, Antoine Garapon. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mercredi prochain, à 21h. Bonne soirée.